Bienvenue sur Aligre FM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline et ce soir on va parler de montgolfière, d'aéronaute, de Nasser. Non, de Nasser, pas Nasser Al-Khaifi, ça c'est le président du PSG, la finale du PSG arrive bien sûr, allez Paris. On est tous derrière ce club. On va parler aérostat, ballon, air chaud, ballon dirigeable, nous ferons ainsi un portrait de la championne Marie Surcouf. Et on va parler 20e siècle. Marty sort la DeLorean, s'il te plaît, on repart en arrière. Et bien sûr, et pour m'accompagner, j'ai Sandrine, dit Zipas. Ta box, linguini de la coquilletas. Comment ça va, Sandrine?
Ça va.
Très bien. Allez, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Chers auditeurs, auditrices, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de votre attention, comme d'habitude. On va donc parler de ballon dirigeable. Et on ne parle pas de mon ego. Et ça, c'est beau.
Je vais dire quelque chose, mais...
Ah, tu peux.
Et pourtant, je pense que tu pourrais remplir la montgolfière avec ton ego, ouais,
c'est exactement. Sûr. Exactement. Ah, et donc, effectivement, merci de la transition à parler montgolfière. Alors, seconde partie, on fera un portrait de Marie Surcouf, une pionnière pour cette discipline, mais pas que. Et dans la troisième, on parlera de Mamie, ces femmes pionnières féministes qui ont ouvert les sports pour...
La nouvelle génération.
Voilà, tu conclus très bien. Voilà. On va tenter des trucs. Des fois, j'essaierai des blancs et je verrai si tu complètes.
Et si jamais c'est pas ce que tu voulais dire, c'est pas grave.
Je ferai tout à fait.
Mais, focus, celui-là.
Merci beaucoup. Mais avant, un peu d'auto-promo. Alors, vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission tous les vendredis de 19h à 20h, mais aussi le mardi matin en rediffusion de 10h à 11h. Si vous êtes coincé quelque part en train de faire des courses, préparer l'apéro, préparer votre maillot pour la finale de samedi, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous retrouver en replay sur la page de la radio. Tapez sur Google Aligre FM Podcast, cherchez l'émission Championne. D'ailleurs, vous avez plein d'autres émissions sympas, L'huile sur le jeu, Cappuccino, Jazzland et j'en passe, et des meilleurs. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que l'épisode 13 de Championne sur le patinage artistique sur Souris à Bonali est déjà en ligne. Et qui avais-je aujourd'hui, ce jour-là, dans le studio?
C'est moi.
Voilà. Vous pouvez entendre Sandrine. Vous pouvez nous suivre sur Instagram @championne_l'émission. On va prendre un petit instant. Alors déjà, comment ça va cette semaine, Sandrine? Content d'être là? Ça va bien?
Ouais, ça va, top. Sur un week-end où il y a un pont, donc il y a potentiellement moins de gens sur la route ou dans les transports, c'est plutôt agréable.
Oui, j'avoue, ça c'est plutôt pas mal.
Ouais, il faut satisfaire de peu. Hein.
Non, ça c'est plutôt bien. Ça, là, Paris est à nous.
Hein. C'est ça. Voilà. Pas encore totalement comme au mois d'août, mais c'est plutôt agréable.
Et demain encore plus, car la plupart seront à Munich. Alors... Moi, ça me fait plaisir que tu sois là. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit plein de fois, de temps en temps, on va un peu changer les intervenants pour varier le rythme de l'émission. Avoir des tchic-tchic-tchac-tchac-tchouc-tchac, comme dirait Jean-Marc Généreux. C'était super, j'achète. Une rumba avec Sandrine, bien sûr. Alors...
Ne demande pas de danser, c'est tout, mais sinon ça va, il n'y a pas de souci.
Je n'en doute absolument pas. Alors déjà, évidemment, je te remercie Sandrine d'avoir trié ces 999 messages et d'avoir laissé seulement 997 dans le spam et seulement deux pour que je puisse les lire. Merci beaucoup.
Non, ouais, c'est parce que ça bloque au bout d'un certain temps. Voilà. Mais je vais essayer de faire en sorte que ils puissent envoyer plus de choses. Oui. Tu vois, t'en auras plus après.
Plus d'espace. Alors, premier message de Donald T. Mec WTF again. Avez-vous vu la news des championnats du monde de dopage? Tout à fait, merci de cette question. Les Enhanced Games, je pense que je le prononce mal, mais bref. D'ailleurs, je viens de faire un démarrage, t'as vu comment on cote? Sur son...
on cote à 4%. Il avait du mal à sortir le mot.
4%. Les Enhanced... Alors, E-N-H-A-N-C-E-D, faites le truc chez vous, Games, plus précisément, auront lieu à Las Vegas, aux USA. C'est la suite des jeux améliorés, j'insiste sur le nom, qui existent depuis 2023. Ceux-ci auront lieu en mai 2026. Donc, certaines personnes vont se préparer et trouver les meilleurs coachs comme Ben Johnson, Maurice Green, des sponsors comme le Festina de Richard Virenque et toute la flopée de préparateurs belges, russes et chinois. C'est financé, d'après toi, par qui? Allez, comme ça, au hasard.
Je sais pas, par des milliardaires?
Jean-Michel Chépa, bravo. Et c'est surtout le fils de Donald Trump, Donald Trump Junior.
Ben voilà, je t'ai dit milliardaire. C'est...
Voilà. Donc cette compétition sera adoubée par le président des États-Unis. On va donc célébrer la tricherie, parce que c'est le cas, le dopage. Ils peuvent même utiliser des équipements, tu sais, comme les combinaisons de natation qui sont non autorisées dans les compètes. Ils auront droit à ça, ils auront droit à l'EPO et tout le tralala. Alors ça fera plaisir.
Non, mais c'est sérieux ce que tu es en train de faire?
Exactement, oui, tout à fait.
C'est dingue.
Je fais des blagues sur des trucs qui existent quand même.
Non, mais le pire, c'est que c'est... Enfin, les athlètes qui vont aller là-bas, pardon, mais c'est... en termes de pub, c'est pas terrible quoi.
Bah écoute, apparemment ils sont méga chauds. Le lobby pharmaceutique, il va être très content. Mais en tout cas, le dopage, je tiens à le rappeler, c'est très très nocif pour la santé. C'est ce qui me pose le plus problème. En plus que ce soit de la tricherie. Donc ils vont faire du pognon et un spectacle sur la triche et la mort éventuelle des participants. Voilà. Ça s'appelle une inversion des valeurs. Comme dirait l'autre, la paix, c'est la guerre. Quand vont-ils se réveiller? Doit-on envoyer de la ricorée?
Moi, j'ai juste une question. Est-ce que, je ne sais plus comment tu as dit que ça s'appelait.
Les Unanswered Games.
Voilà. C'est pour les hommes?
Tout le monde. Tout le dopage. Tant que tu es dopé, tu peux tricher.
En fait, là, ils vont passer une prise de sang pour être sûr qu'ils soient dopés. Ah, pas oui, pour être sûr qu'ils ne le sont pas. Là, pour être sûr qu'ils le sont. Oui.
Et ils ont un an de préparation. Il y a déjà eu des types. Il y a un type qui a battu le record du monde, j'ai vu. Il était dopé avec la combinaison. Il a battu le record du monde sur 50 mètres, je crois. Ou 100 mètres, je ne sais plus. De nage libre.
Non, mais les athlètes qui le font dans les normes de leur sport et tout en étant sains de corps et d'esprit, ils doivent se tirer les cheveux en mode « mais c'est pas possible ». Enfin, ils vont pas être enregistrés ces records parce qu'ils les battront jamais, alors, sachant qu'eux, ils sont pas dopés et qu'ils suivent les règles.
Ils seront pas enregistrés, ils toucheront pas les 100 000 dollars de record du monde, CIO, etc. Mais eux, c'est ce qu'ils veulent faire quelque part, tu vois.
Ah, j'espère juste que ça a pas fonctionné et que ça a fait un gros flop, histoire qu'on n'entende plus parler de ce truc-là, en fait.
Ah bah, je suis complètement d'accord, c'est un truc que je trouve complètement fou et pourtant ça existe. Et je le redis chez vous, attention à votre santé. Le dopage, c'est pas à prendre très au sérieux. Il y a plein de gens qui sont morts, plein d'athlètes sont morts de ça, plein de culturistes en sont morts. Ça fait quand même beaucoup de ravages, donc faut pas prendre ça à la légère. C'est pas juste j'améliore mes performances, c'est vous mettez votre santé en jeu, c'est vraiment très très compliqué.
Mais surtout que ça peut générer des maladies que tu n'avais pas au-delà du fait de perdre la vie, tu peux avoir des maladies dans ces cas-là qui te suivent toute ta vie, donc c'est pas anodin en fait.
Voilà, donc c'est pas n'importe quoi, faites très attention. Et un champion du monde de la tricherie, oh, quand t'as un président Donald Trump, est-ce que finalement...
Oui, ça a plutôt du sens sur ce point de vue-là.
Allez, on repart sur le sport. Alors, Sandrine, première question, combien d'heures en montgolfière?
Il y a une suite à ta question ou...
Non, que juste comme ça, c'est Vanilla.
Alors,
incapable. T'en as déjà fait?
Oui, j'en ai déjà fait, mais j'étais enfant, donc pour te dire exactement le temps que j'ai passé, ça m'a paru super long. mais je pourrais pas te quantifier ça en temps. Mais c'était génial, vraiment c'était génial. Et bon, je voyais pas grand chose parce que j'étais petite.
Dans la nacelle, ouais.
Mais ils avaient imité, genre, comme, tu sais, les trucs que t'achètes pour les enfants pour qu'ils soient plus proches du lavabo, tu sais, une espèce de petite marche là, tu vois. Donc j'avais ça et j'étais juste comme ça là. Donc c'était génial. Mais alors, te quantifier le temps, ça se trouve, ça a duré 4 heures et moi j'ai cru que ça a duré, je sais pas, peut-être une heure, tu vois.
Alors moi j'en ai fait, j'ai eu l'impression de monter en ascenseur et en fait, ce qui était cool, c'était que moi, la montgolfière que j'ai faite, bah, elle était attachée. On n'est pas parti. Toi, t'es parti au loin?
Ouais, ou... moi, je suis parti au loin. Pas sur une longue distance, hein, mais oui, je suis parti au loin.
Ah, ça fort.
Avec un coucher de soleil. C'était génial.
Wow.
En termes de paysage, c'était vraiment très joli. En termes de sensations, je pense qu'en étant adulte, il y en a peut-être un peu plus parce que. Voilà, mais.
Moi, j'ai trouvé ça très chill. J'ai adoré.
Ah oui, bien sûr. Et le bruit aussi. Parce que du coup, quand ils font le. Ouais, ça a sûrement un nom quand tu remets de. Je sais pas, mais bon, bref, ce fameux bruit-là. C'est un peu bizarre parce que du coup c'est hyper silencieux quand t'es en haut avec le paysage, de toute façon t'en prends plein les yeux, mais en termes de bruit t'as pas grand chose si ce n'est que si t'as des oiseaux qui passent à côté, et d'un seul coup il met ce truc qui fait un bruit énorme et du coup il y a un sacré contraste en fait.
Excusez-moi.
Oui, mais ça t'a porté un nom, ce truc.
Je suis imitateur depuis 1985 de père en fils, c'est très important. Alors, belle transition. Alors, c'est quoi la montgolfière déjà? Ah bah déjà c'est une nacelle, elle est plus souvent en osier ou en rotin, avec un plancher de contreplaqué. Beaucoup d'autres matériaux ont été utilisés, mais ce sont des matériaux naturels qui offrent une souplesse indispensable, surtout lors d'atterrissage un peu sportif. Parce que c'est vrai qu'on oublie, mais des fois quand ça atterrit, tata, ça tape le sol. Pour embarquer 3 personnes, c'est la moyenne, généralement, mais t'en as des plus grandes. 3 personnes, les bouteilles, parce que c'est là où t'actionnes effectivement le propane liquide qui permet après de tractionner et ça fait... Et je le fais vachement bien quand même.
Oui, mais ce serait bien de mettre un nom sur ce geste.
Il arrive.
Ah, ok.
Alors le geste, je ne sais pas, mais j'ai une feinte. Du coup, la dimension classique est de 1m15 de hauteur, 1m20 de longueur, 1m10 de largeur. Voilà, c'est
oui, tu vois, 1m15 de hauteur, donc tu vois, moi étant petite, je ne voyais pas.
Oui, voilà. Donc, on actionne le brûleur.
Le brûleur,
voilà. Et le brûleur, il est fixé à un cadre supporté par 4 cannes qu'il supporte sur la nacelle. Et il y a effectivement des bouteilles de propane liquide. Ça actionne, hop, ça envoie. Alors aujourd'hui, il existe comment je peux dire, deux types de montgolfières, celles qui sont à air chaud avec brûleur et celles qui sont carrément à gaz. On envoie carrément du gaz dans l'enveloppe qui est le ballon. Qu'est-ce que l'enveloppe ? L'enveloppe, c'est le ballon.
Pourquoi on appelait ça une enveloppe, autant appeler ça un ballon ?
Ils appellent ça une enveloppe. Les frères montgolfiers, ce qui s'appelle montgolfier.
Oui, ça je savais.
Ah, avaient conçu leur première montgolfière en papier et en tissu. Évidemment, ça pouvait prendre feu.
Oui. Attends, ils n'ont pas fait de vol avec ça.
Il y a eu des tests, mais bon, on va en parler après.
Parce que waouh.
Donc voilà. Et depuis, ça a changé effectivement. On a utilisé du nylon. Il y a de l'enduit pour du silicone, du polyuréthane
nylon,
aussi.
C'est pareil, c'est inflammable.
Bah, généralement, c'est nylon polyester aujourd'hui, mais comme c'est enrobé, tu sais, c'est enduit de matière qui empêche que ça s'enflamme, c'est un peu plus résistant. Alors bien entendu.
En fait, c'est protégé par ce produit, en fait.
Exactement. Donc, c'est destiné à protéger aussi des rayons ultraviolets, parce qu'on le dit peu, mais quand tu montes à une certaine altitude et que le soleil te tape, en fait, en papier, ça peut prendre feu. Voilà.
Il ne faut pas dire ça à la personne, il faut le dire après.
Voilà. Donc, du coup, effectivement, le délire, c'est t'envoies l'air chaud à l'intérieur, hop, ça se gonfle et bim, ça part. Alors, il faut savoir que les volumes, ça peut aller à 250 mètres cubes.
C'est énorme.
Le ballon est vraiment énorme. Il faut savoir qu'on peut aller à plus de 21 000 mètres cubes pour les plus grandes, permettant l'emport de combien de personnes d'après toi ?
Attends, 21 000 mètres cubes et avant l'autre, c'était combien ?
250 mètres cubes.
Oula !
250 mètres cubes, on est sur les 3, 4, 5 personnes, tu vois ?
Je pense que 21 000 mètres cubes, t'en mets beaucoup plus. Je sais pas, peut-être pour une quinzaine de personnes.
32 personnes.
Wow.
La plus grosse montgolfière a fait 32 personnes.
Mais attends, c'est pas la forme ronde ? Si, c'est pareil, en forme ronde.
Non, la nacelle, elle peut être carrée ou ronde, peu importe, tu vois. Déjà, même les formes de nacelle, elles peuvent changer. D'ailleurs, là, vous utilisez votre mémoire visuelle, messieurs, dames, auditeurs, auditrices, vous avez vu des ballons, et parfois la nacelle est un peu différente. Mais là, on peut mettre 32 personnes.
En même temps, elles sont toutes debout.
Voilà.
Donc, en fait, en termes de place, c'est plus pratique.
Alors, un peu d'histoire. Un premier vol officiel du ballon à air chaud des frères montgolfiers, Étienne et Joseph, a lieu place des Cordeliers à Annonay, en Ardèche, le 4 juin 1783. C'est vieux, hein. Devant des notables, il lâche un ballon de 11 mètres de diamètre chauffé par un feu de paille et de laine.
Oh là là.
Le truc monte comme ça, tout, 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 tout.
Avec quelqu'un dedans ?
Non, il n'y avait personne. Ah. Ils font le test, il n'y a personne. Alors, ils se sont inspirés, effectivement, on en a parlé hors antenne avec Armand Diego Maradona, qui est à la régie. Ils se sont inspirés, tu sais, des lanternes asiatiques en papier. Tu mets une bougie et hop, ça part.
Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont vu Réponse, bah voilà.
Voilà, même truc, même bonne référence d'ailleurs. Très bon Disney.
Pour le coup, je n'ai pas grand-chose. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc
Non, ça va.
J'ai juste fait que de répéter ce que tu as dit.
Ensuite, le 19 septembre 1783, la même année, préparez-vous, un coq, un mouton et un canard firent l'expérience du premier vol habité à Versailles devant le roi Louis XVI.
Non mais, faut qu'ils arrêtent de mettre les animaux en galère comme ça, sérieux.
Je trouve ça génial. Et un coq, il n'a rien demandé. Un canard et un mouton, pourquoi cet assemblement d'animaux ?
Ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, écoute.
Voilà. Et du coup, devant Louis XVI, il s'envole. Après toi, quelle hauteur ?
Je sais pas,
comme ça, vas-y, on voit.
Une dizaine de mètres.
550 mètres.
Oh la vache.
Voilà.
Je crois que la poule, le coq, pardon, il aurait jamais vu le ciel de cette façon-là, en fait. puis même, ça se trouve, il devait rien voir, le pauvre.
Moi, j'imagine le coq, il se dit, je saute.
Mais même pas, parce que si tu me dis qu'il faisait combien de hauteur, les paniers ?
Les paniers, ils font 1m15, 1m30, tu vois. Bah, à cette époque-là, j'ai pas la nacelle de ce moment-là.
Mais les pauvres, ils voyaient rien en plus.
Bah non, ils voyaient rien du tout, ils ont rien compris, à vrai dire.
Ils ont même pas profité du voyage.
En même temps, le 19 octobre de cette même année, à un lieu situé rue de Montreuil, aujourd'hui à Paris, à l'époque encore, le bourg de Saint-Antoine, a lieu le premier vol humain effectué par Jean-François Pilâtre de Rosier et Giroud de Villette. Le premier vol libre humain élève ces deux hommes le 21 novembre 1783 à une petite belle hauteur. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que le 4 juin 1784, un an plus tard, à Lyon, la Gustave, c'est le nom de la montgolfière, monte Élisabeth Tiblet. Eh oui, malgré l'interdiction du roi Louis XVI, mais suite au désistement du comte Jean-Espérance Bandine de Lorenois,
Il a eu les foies.
Exactement. La courageuse aventurière prend place à bord du ballon baptisé La Gustave en l'honneur de Gustave III de Norvège, de passage à Lyon le 4 juin 1784. Et c'est la raison pour laquelle on va appeler ça la Montgolfière. Et ouais, parce que c'est y a Elisabeth qui a fait son petit vol. Et donc du coup, on rebaptise l'objet des Montgolfiers en Montgolfière. Parce que c'est une femme, c'est une aventurière. Voilà. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'Elisabeth, pionnière de l'aviation féminine, c'est pas n'importe qui, elle est vêtue d'un costume de Minerve, coiffée d'un chapeau oriental. Elle portait une robe blanche, j'essaie de faire Stéphane Bern, une robe blanche de taffetas, serrée à la taille avec une ceinture de soie bleue. La Montgolfière s'envola depuis les Brotteaux devant des milliers de spectateurs à une hauteur d'après vous de 550 mètres pour le coq. Là on est à combien? Allez-y, au hasard comme ça.
700.
2700 mètres.
Je l'avais. J'avais ouais. Juste pas le de devant. Mais
quelle puissance, vraiment, extraordinaire. Évidemment, c'est un vol qui va être connu partout dans les journaux, tout ce que vous voulez. Cette dame est extraordinaire. Et plus fort, un passionné du nom de Jean-Pierre Blanchard traverse la Manche de Douvres à Calais à bord d'un aérostat gonflé à l'hydrogène, parce qu'à ce moment-là, il tente l'hydrogène, mais ça va prendre feu souvent. Il traverse la Manche en ballon. Et là, parenthèse, en quelle année une femme fait la même chose? Ouais, vas-y, propose.
On traversait de Montgolfière comme
ouais,
ça.
La Manche. Il faut le faire déjà, c'est un délire.
Oh, tu sais que pendant mes recherches, je l'ai vu ce truc-là, mais ouais. J'ai pas retenu l'année.
Je t'aide un peu, elle s'appelle Marie Marvin.
Oui, bah, je l'ai vu. Ce monsieur le fait quand?
Ce monsieur le fait en 1785.
1785, je dirais que cette charmante dame le fait peut-être entre 2 et 5 ans plus tard.
1909. Ça paraît loin, mais... Marie Marvin était un peu occupée avant, parce qu'elle a fait le Tour de France à vélo en 1908, la traversée de Paris à la nage en 1906, c'est la femme la plus décorée de France, 34 médailles et décorations, elle fut la française de tous les records surnommée la fiancée du danger. Voilà, pas que ça à faire.
Bah, s'appelant la fiancée du danger, la Montgolfière devait faire partie potentiellement de ce qu'elle devait faire, évidemment, parce que ça, à cette époque-là, ça devait être considéré comme quelque chose de très dangereux.
C'est exactement ça. Et maintenant, on y arrive à ce qui nous intéresse. Combien de clubs de montgolfières en France?
Je pense qu'ils doivent pas y en avoir beaucoup. Ils doivent se battre en duel, je pense, tellement il y en a peu. En région parisienne ou dans la France?
Non, dans la France.
Je sais pas, je dirais entre 15 et 20.
80 clubs couvrent la France. Il y en a moins d'une dizaine en Île-de-France, beaucoup dans le 77 et un dans le 91. Donc si vous voulez faire...
À la campagne, quoi.
Voilà, exactement. Des espaces. Bah, si ça prend feu, on ne sait jamais.
Enfin, du coup, pour le coup, surtout au-dessus de... Enfin, il faut qu'il n'y ait pas d'habitation.
C'est ça.
Pour minimiser les risques.
En nombre de pilotes, on est sur 700 pilotes, donc 700 licenciés. Tu vois, tu n'étais pas loin.
C'est pas mal.
En France.
Hommes-femmes, tout confondu.
Il y a 15% de femmes environ.
D'accord.
Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était le prix de la licence, tout ça. Je remonte. C'est pas si cher que ça pour en faire en vrai.
Le matos, il doit coûter excessivement cher.
Ah oui, mais tu le fais en club, il te prête la Montgolfière, tu la payes pas. Sinon, c'est
exorbitant. Ouais, mais alors la licence, ça doit coûter un certain prix. Si justement, ils te la prêtent, la Montgolfière, c'est parce qu'ils doivent, pour rentrer dans leurs frais, ils doivent diviser pour qu'elle soit rentable, la Montgolfière.
Bah, la Montgolfière, c'est 50 000 balles. Et en fait, pour en faire. Oh, tu es entre 150 à 300 euros par an.
Ouais, ce qui fait une belle somme quand même. Voilà.
Il existe évidemment des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde et Gordon Bennett. Mais ça, on en parlera dans la deuxième partie parce que c'est le moment de mettre de la musique. Haha, je t'ai eu.
Je le savais.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Sweet dreams,
dreaming
till something's fine. You keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to.
Bonjour à nouveau auditrices, auditeurs, je suis toujours Cad, l'homme du 92, nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1, vous êtes bien dans l'émission Championne qui traite du sport féminin. Oui, on a pris la DeLorean, oui, on vient d'écouter Ella Fitzgerald et Louis Armstrong pour le morceau Dream a Little Dream of Me. Eh, t'as vu, je me suis amélioré en anglais ou pas?
Grave, à la...
Ah,
aujourd'hui... J'ai compris ce que t'as dit.
Ah bah t'as vu?
Ouais.
Aujourd'hui, je suis Cad, la montgolfière très fière. Nous sommes toujours avec Sandrine Di, la dresseuse de chat sauvage sur tous les roues. Et nous sommes toujours accompagnés par la régie. Diego Armando Maradona, bien sûr, merci à lui. On va parler plus en profondeur de notre légende Marie Surcouf, née Marie-Valentine Nelly Bayard, à Ham, dans la Somme, le 19 mai 1863. Eh oui, c'est pas tout vieux.
C'est pas tout jeune.
Non, c'est pas tout vieux.
Parce que c'est pas tout vieux, c'est pas la bonne formule.
C'est pas tout vieux, c'est pas tout jeune, ça va. Qui n'a pas un ami né en 1702, franchement?
Ça doit être super intéressant parce qu'il a dû vivre des trucs de fou. Il doit avoir trop de choses à raconter, mais malheureusement, on n'en a plus beaucoup autour de nous.
Elle est décédée à Paris le 11 mars 1928 et c'est une aérostière et féministe française. C'est une Française comme on sait les faire. Et je te laisse enchaîner si tu veux.
Allez, je voulais juste préciser un fait qui paraît à notre époque un peu anodin, mais pour ces époques-là qui étaient quand même assez avant-gardistes, c'est-à-dire qu'en fait, elle a épousé Albéric Roussel, qui est un docteur en médecine. Elle l'a épousé en 1882. Quoi ?
Bon parti.
J'ai pas compris.
Bon parti.
Ah, bon parti.
Oh là là, putain, je fais la vanne des vieux réacs. Bon parti. Faut se marier qu'un avocat, un médecin ou un noble. Un bourgeois. Bon parti.
Oui, bah, je sais pas.
J'ai pas dit bon appétit. Je sais qu'on a faim, mais quand même.
Écoute, j'ai pas compris.
Oui, vas-y.
Elle épouse en 1882 ce bon parti.
Voilà.
Avec qui elle aura deux enfants, mais fait... assez ouf pour cette époque, c'est-à-dire qu'elle divorce de cet homme en 1896.
Ah oui, quand même.
Et en 1997, elle épouse Édouard Surcouf, dont son nom en fait, qui est ingénieur et aéronaute. Bon parti.
Bon parti.
Bis. donc elle l'épouse en 87, mais elle en divorce en 1916. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, elle divorce pas une fois, mais deux fois.
Genre, c'est rare pour cette époque.
Je suis une femme, mais tu vas pas m'emprisonner dans ma vie si tu fais ce que voilà. Tu vois, donc je trouve que pour cette époque-là, elle a dû se
avant-gardiste, toi.
Oui, puis surtout, elle a dû avoir des réflexions de dingue parce que pas de compte en banque à son nom, pas de tout ça, ça doit être pas évident.
Non, clairement. Et Elle fonde aussi, ce qui est un grand moment, elle fonde, Marie Surcouf, le club féminin La Stella, le 10 février 1909. L'association est déclarée à la préfecture de Paris le 12 mars 1909 avec publication dans le journal officiel du 3 avril 1909, si quelqu'un veut vérifier. Mais pour résumer, elle crée carrément une association de sport pour les femmes. Alors là, en l'occurrence, ça va être un club. Et à partir de là, elle va vraiment marquer l'histoire. Déjà, t'avais déjà entendu parler de Marie Surcouf avant ?
Non. Non, j'en avais pas entendu parler, mais sais-tu pourquoi elle a créé cette fameuse assos ?
Alors, je répondrai par... Est-ce que je sais si la première femme dirigeante dans le monde de l'aérostation et fondatrice de clubs féminins aériens a dû le faire par elle-même ? Eh bien non, je te laisse répondre à cette question.
En fait, dans les grandes lignes, parce que c'est un peu long à expliquer, mais concrètement, elles avaient droit d'aller à l'aéronautique Club de France pour accompagner les hommes, que ce soit leurs époux, leurs frères, leurs oncles, machin. Mais c'était juste en termes d'accompagnatrice, ce qui ne lui plaisait pas, évidemment. Donc du coup, elle a voulu créer une branche pour que du coup ça puisse être ouvert aux femmes, toujours dans cette aéronautique.
Je parierais même que ça s'appelait le comité.
C'est ça. Donc elle l'a fait, elle a eu des femmes. Alors ils l'ont autorisé, seulement si au niveau de la direction il n'y avait pas de femmes.
Déjà, on est sur un truc extrêmement avant-gardiste.
Donc, ok, mais pas de femmes au niveau de la direction.
Mais vous ne dirigez pas quand même.
Et il y a eu pas mal de péripéties, pas mal de choses qui ont fait que du coup, comme elles n'étaient pas dans la direction, automatiquement on leur imposait des choses qu'elles ne voulaient pas et tout ça. Et sur les années, ça a commencé un peu à leur monter au cerveau sur des choses totalement débiles en plus, qui n'étaient pas fondées. Et du coup, elle crée ça.
Elle crée son propre club.
Et elle se met, bien évidemment, en tant que présidente, et elle prend celle qui était avec elle, et hop, elle les met au conseil.
Notamment Alice Milia, qui va être avec elle, qui est une grande sportive de l'époque, on en parlera tout à l'heure d'Alice Milia. Mais oui, t'as tout dit, elle fonde son club.
Mais en fait, les femmes qui étaient apparentées à ces hommes, entre guillemets, pour pouvoir venir, c'est mon mari, c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est voilà, elles avaient droit de venir, elles avaient droit aussi de monter dans les montgolfières, mais fallait qu'elles payent une licence de 80 francs. Alors, à l'époque... C'était genre une somme folle.
C'est-à-dire que tu as le droit d'accompagner ton mari, mais il faut que tu payes.
Il faut que tu aies une licence.
Voilà, d'accord.
Alors, je ne sais pas si les maris, j'ai pas trouvé, je ne sais pas si les maris ou les frères ou machin, bref, les hommes, ils devaient payer sûrement une licence. Mais je ne sais pas si c'était la même somme, mais en tout cas, on les autorisait, mais attention, 80 francs.
Oh non, c'est énorme. Tout ça parce qu'en fait, elles n'ont pas le droit, tu vois. Encore une fois, on est sur quelque chose de très militantisme et très militant, pardon. Et moi, ça me termine, c'est exactement ça. D'ailleurs, Marie Surcouf est reconnue comme l'une des premières femmes à piloter un ballon dirigeable. Voilà, on est dedans, parce qu'elle en avait marre qu'on lui dise quoi faire. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, ça n'a aucun sens, puisque là, on est encore une fois sur une discipline qui, encore plus que d'habitude, diriger le ballon, il ne faut pas avoir des gros muscles. Faut pas, tu vois, il n'y a pas un prérequis particulier.
Non, bien sûr.
Un être humain peut faire fonctionner le truc à partir du moment qu'il sait comment ça fonctionne.
Bien sûr,
quoi.
Mais j'avais oublié ce truc-là, c'est qu'en fait, pendant leur ascension, elles avaient droit de monter dedans, mais il fallait qu'elles soient accompagnées de deux parrains. Elles ont payé 80 francs, ont droit de monter, mais attention, tu pars pas sous tes deux parrains.
On sait pas si elles volent la montgolfière. On le sait, elles vont partir comme ça. Et puis en plus, tu sais, c'est des femmes, ça se trouve, elles savent pas piloter, elles vont s'en aller, on va jamais les retrouver. Voilà, c'est ça, ça devait être ça, l'excuse, tu vois. Donc effectivement, elle s'est battue pour ça. En termes de récompense, alors, elle n'a jamais gagné des compétitions formelles, parce que c'était déjà rare à l'époque, et encore pour, comme on l'a dit, récompenser une femme, c'était pas très bien vu, donc c'était pas le cas. Mais par contre, elle a reçu de nombreux hommages posthumes, et aujourd'hui, elle fait partie des figures exposées sur les pionnières de l'aviation au Musée de l'air et de l'espace au Bourget, et à la Cité des sciences. Une de ces citations qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai trouvée...
Elle a des citations top.
Ouais, moi, il y en a une qui m'a fait mourir de rire, c'est la première d'ailleurs. La femme comme l'homme a le devoir d'être sportive. Si elle doit faire une sélection dans les sports si nombreux aujourd'hui pratiqués, l'aérostation est certainement celui qu'elle désignera tout d'abord. Il est sans contredit celui dont l'imprévu, la poésie et la sécurité le désignent à ses suffrages. Elle a déclaré ça en 1909 quand elle a créé le club de la Stella. où elle va réunir plein de femmes. Et,
d'ailleurs, elle a pris, entre guillemets, un peu sa revanche, c'est-à-dire qu'elle a fait la même chose dans son club, la Stella. C'est-à-dire que les hommes, ils avaient le droit de venir seulement s'ils étaient, ils étaient attachés, entre guillemets, à leur femme, à leur sœur, à leur cousine. Elle avait la même chose.
Elle avait la même chose. Elle a énormément pesé dans ce game. Ça, c'est assez fou, d'ailleurs. Elle est vraiment une figure précurseur française du féminisme technologique et sportif. Parce que c'était une femme qui pouvait utiliser la technologie pour être dans le ciel. La technologie, on parle de la montgolfière, clairement. Pour l'époque, il faut savoir que c'était un truc de ouf. Et effectivement, oui. Le comité des dames de l'Aviation Club de France, la CDF, qui a ses locaux encore sur les Champs-Élysées, ils font maintenant du poker. Hein, voilà, ils sont tombés bien bas. Voilà.
Oui, hein, le truc, rien à voir.
Effectivement, était la première association française de femmes aéronautes. Et elle a préféré prendre son indépendance. Et ça, déjà, c'est assez dingo.
Mais c'est surtout que dans son petit monde là, au niveau de ses membres, elle avait des personnes comme la princesse de Polignac, la comtesse Polyakov, la duchesse d'Uzès. En fait, elle avait des hautes personnes de la société qui étaient dans son club.
Ah oui, elle a ramené la crème de la crème pour prouver que les femmes pouvaient faire de la montgolfière seules. Non, franchement, c'est grande dame. Alors effectivement... En décembre 1917, parce qu'on avance un petit peu du coup, parce qu'en 1909, elle crée son Stella. Vas-y, t'avais peut-être...
Je voulais juste rajouter truc, c'est que quand elle était dans le club des hommes, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'Aéronautique Club de France, je crois.
Oui, c'est ça.
Ils faisaient des grandes soirées dans des beaux hôtels, au Crillon, je crois.
Oui.
Et du coup, ils faisaient des grandes soirées où ils en mettaient plein la vue, machin. Et donc, quand elle a créé la Stella, du coup, elle a fait des soirées artistiques où, entre autres, il y avait du chant lyrique, des parties de thé qu'elle avait baptisées Stella Thé.
Oh, bien.
Elle faisait des grands banquets annuels et pour contrebalancer le fait que du coup, elle pouvait pas être à l'hôtel Crillon, puisque ça, c'est les hommes qui faisaient ça, elle le faisait quand même à l'hôtel Astoria, qui est sur les Champs-Élysées. Donc, non, mais c'était pour montrer que c'est pas parce que voilà, nous aussi on peut faire des belles soirées dans des beaux endroits.
Eh ben, justement, on rebondit, et effectivement, le 17 décembre 1912, 3 ans après avoir créé son propre club, lors du grand banquet annuel de la Stella, dont tu viens de parler, transition, ma chère Sandrine.
Pas fait exprès, t'as vu ça ou pas?
Non, mais si, c'est fait exprès, faut le dire aux auditeurs, tout est préparé. Marie Surcouf plaide ouvertement la cause des femmes. La femme de sport n'efface pas, croyez-le bien, les sentiments de la femme, tout simplement. L'Empire des airs appartient à tous, et qui oserait contester que la femme n'a pas le droit à la conquête des étoiles? Ce que l'homme parvient à acquérir par sa force musculaire, par son endurance physique, la femme le conquiert aussi par sa volonté, sa ténacité et son courage. Et ça, on est en 1917. En termes de féminisme, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup dans notre société, c'est... 5-10 dernières années, là on peut dire quand même précurseur de ouf, hein. Siècle d'avance.
C'est cette phrase-là que j'ai trouvée sublime.
Extraordinaire.
Vraiment, ouais.
Elle le dit très bien, moi je trouve ça fou. Et après, en 1917, en décembre, à l'initiative de quelques dirigeants sportifs masculins, est fondée la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Et ça, je trouve ça génial. Fédération qui regroupe les clubs sportifs ayant eu en leur sein des sections féminines, donc du coup on va inviter évidemment la Stella. Le premier président de la FSLFFS, pas des fesses, voilà, et le docteur Raoul Baudet, chirurgien en chef des hôpitaux de Paris, c'est pas n'importe qui, à ses côtés, les dirigeants de la fédération font entrer deux femmes au conseil d'administration, Marie Surcouf, Alice Milliat, comme trésorière, Marie Surcouf en tant que vice-présidente, VP, c'est fou. Marie Surcouf restera à ce poste jusqu'en mars 2019, puis deviendra vice-présidente honoraire de la FSFL-FSFSE.
Il y a trop de mêmes lettres qui se suivent.
Voilà, tout à fait. Et puis comme on est français, on est un peu coquins, voilà, on aime bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses de son parcours ?
Moi, je trouve ça... je trouve pour le coup que c'est une femme qui est née certes dans cette époque-là, mais qui a su faire son petit bonhomme de chemin en faisant ce qu'elle voulait faire en termes de passion. Elle voulait être aéronaute, elle l'a fait, et ça lui plaisait pas les conditions dans lesquelles on lui permettait de le faire, donc elle a carrément créé autre chose. Après, je pense que du fait de son statut, parce qu'elle a épousé des bons partis,
médecin, ingénieur.
Je pense qu'elle était quand même dans une sphère de personnes aisées à cette époque. Donc, elle avait peut-être accès à plus de facilité.
Influente,
En tout cas, accès, elle avait quand même accès à des... Enfin, elle connaissait des princesses et ce genre de choses. Donc, mmh. elle était dans un monde qui peut-être l'a aidée. Mais ça reste quand même un monde où... Enfin, une époque où bah, les femmes, elles n'avaient pas grand-chose à dire. Et elles mmh. dépendaient totalement du bon vouloir de son mari. Oui. Des autorisations qu'il pouvait lui donner ou quoi que ce soit. Et pour le coup, son mari... Le second, M. Surcouf, on ne l'a pas dit, mais du coup, l'a toujours soutenue dans ce qu'elle faisait et l'a toujours aidée sur le principe qu'elle voulait faire ça, elle l'a fait. Et franchement, chapeau, parce qu'elle ne s'est pas battue que pour elle, elle s'est battue pour les autres. Et à cette époque-là, je pense que ça n'a pas dû être facile et que ça a dû lui fermer beaucoup de portes.
Oui, clairement. Et que, elle s'est fâchée avec beaucoup de choses.
Ouais, ouais, et ça a dû, niveau financement, au niveau contact, ça a dû lui fermer quand même pas mal de choses qui est... Dommage, parce qu'en fait, elle voulait juste pouvoir faire ce qu'elle voulait. Mais chapeau.
Chapeau bas. Il faut savoir qu'en 1928, elle décède à Paris. Elle laisse derrière elle un héritage militant, on l'a dit, sportif, intellectuel, comme tu viens de le souligner. Elle est saluée dans la presse féminine scientifique comme une pionnière de la liberté des femmes. Et une de ses citations que j'ai beaucoup aimée, c'est « Là-haut, il n'y a ni sexe ni privilège, juste du courage et du vent ». Et pour moi, c'est l'une des premières à s'être battue pour les droits des femmes, qui sont des êtres humains comme les autres, et je trouve ça génial. Et c'est le moment où on va écouter un petit peu de musique sur cette conclusion.
Oh, c'est dommage, j'avais encore un truc à dire.
Bah, tu le diras après la pause.
D'accord.
Tu referas une petite couche sur Marie Surcouf, hein, une petite couche par...
Ça sera pas long, tu verras.
Bah, je t'en prie, on a encore une troisième partie, on a le temps. Maestro, s'il vous plaît.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
Ah, Alors bonjour à nous auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis Kat, l'homme du 92, c'est bien dans l'émission championne. On vient d'écouter Edith Piaf, Padam, Padam, mais on peut dire Panam, 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 pour la finale bien sûr du PSG, c'est bon, on la gagnera, c'est Ligue des Champions, mesdames et messieurs, attendez, voilà, ça sera contre l'Inter de Milan, ce sera un beau match. Pour m'accompagner, j'ai toujours Sandrine avec moi, ça va Sandrine?
Impec.
Et toujours, pas de sobriquet dans notre partie, c'est la règle. Maintenant, nous allons parler de plusieurs choses de façon libre et notamment sur le monde sportif féminin du 19e, 20e siècle. Mais avant, tu avais une information sur Marie Surcouf.
Oui, j'avais juste une petite information. C'est que du coup, l'histoire de Marie Surcouf, racontée par sa petite fille, en fait, ils ont fait un bouquin qui s'appelle « Quand les ballons disputaient le ciel aux oiseaux ».
Oh, c'est mignon.
Donc voilà, je trouve ça plutôt fun et c'est Jacqueline Roussel-Rennes qui l'a écrit.
Waouh, tu viens de t'approcher du micro, mon tympan a sauté en l'air. Mais je tiens à dire que c'est bien parce que je pensais que tu allais nous raconter que Surcouf avait un rapport avec les magasins Surcouf des années 80.
Non, pas du tout.
En fait, pas du tout.
Non, non.
Alors, voyons si dans notre patrimoine français et européen, voire mondial, nous avons d'autres mamies qui défendent bien leur steak. Et je commencerai, puisqu'on en a parlé, transition, de Alice Milia. On a dit tout à l'heure qu'elle était trésorière du FSFSFSFSFS.
Oui.
Cette militante et pionnière du sport féminin, préparez-vous mesdames et messieurs, parce qu'en vous sortir des portraits de gens, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais croyez-moi, ça vaut le coup de se pencher. L'exploit majeur de Alice Milia, donc déjà c'est d'avoir été l'une des fondatrices de la MFLFNMFFNFS, mais elle fonde aussi la Fédération Sportive Féminine Internationale en 1921. Oui. Elle organise les Jeux Mondiaux Féminins à Paris.
Mais sais-tu pourquoi ?
T'inquiète, attends. Elle lutte contre le sexisme au sein du CIO, CIO dont on a entendu parler grâce aux Jeux Olympiques, c'est le Comité International Olympique, qui refuse les femmes aux JO. Mm-hmm. Chose importante. Donc Alice Milia est ainsi à l'origine des premiers Jeux Olympiques féminins, à une époque où les épreuves sportives ou féminines sont jugées, préparez-vous, et là j'attends ta réaction après, dès que j'ai fini, je te prépare, je te tease, les épreuves sportives féminines sont jugées inintéressantes, inesthétiques, incorrectes, par le Comité International Olympique de Pierre de Coubertin. Pour l'historien et pédagogue français, la femme est avant tout une reproductrice destinée à couronner les vainqueurs. En 1925, la Suède accueille la seconde édition des Jeux Olympiques féminins. À partir des Jeux de 1908 à Amsterdam, l'athlétisme apparaît comme discipline olympique. Alice Milia devient la première femme juge lors des épreuves d'athlétisme des hommes. Toutefois, cette ouverture aux femmes lui a semblé trop partielle. Elle en voulait plus. Voilà. Alors, je tiens quand même à ce que tu réagisses. Et vous, les femmes qui écoutez, réagissez à ça. Je recite parce que ça me tue. La femme est avant tout une reproductrice destinée à couronner les vainqueurs.
Non, mais...
Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus ?
Pardon, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas terrible. Donc, je préfère... Non, mais... Je l'ai vu ce truc-là et j'ai trouvé ça absolument écœurant. Ouais. Voilà, bref, je n'en dirai pas plus. Mais dans ce que tu disais, moi j'ai lu des phrases qui ont été dites et j'ai trouvé ça dingue. C'est genre une Olympiade femelle. Attention, c'est écrit comme ça. Une Olympiade femelle est impensable. Elle serait impraticable. Et donc...
Femelle !
Femelle, quoi. Et elle dit aussi, peu importe la force de la sportive, son organisme n'est pas fait pour supporter certains chocs. Et les accouchements, on en parle ou pas ? Parce que c'est pas un choc. Enfin bon, bref. Et en 1922, le docteur Maurice Boyguet, je sais pas si ça se dit comme ça, médecin en chef de l'école de gymnastique de Joinville, rappelle que la femme n'est pas faite pour lutter, mais pour procréer.
Ah bah oui, attends. C'est pas le même sport. Alors, je tiens quand même à dire que chaque semaine, on parle de femmes sportives de haut niveau qui ont marqué l'histoire. Et quand je lis qu'il y avait ça comme préjugé dans les années 20, ça me choque. Enfin, même pas les années 20, on est carrément en 1908. les années 20, 1921. C'est n'importe quoi.
En fait, ce qui me choque, c'est pas tant cette phrase qui est totalement inaudible, on est d'accord, mais c'est qu'à de notre époque maintenant... Il y a des gens qui sont capables de penser de la même façon.
Oui.
C'est ça qui me choque le plus, en
moi,
fait.
Moi, quand je fais le parallèle historique, il y a quelque chose qui me fait rire. Et après, on va reprendre avec les diverses personnalités. Mais ça me termine, c'est qu'à la fois, tu découvres qu'il y avait déjà des féministes. Marie Surcouf, Alice Milia, d'autres. Il y avait déjà des femmes qui se battaient pour mettre en avant le fait que c'est une femme et qu'elles peuvent faire du sport. Comme on a dit, la discrimination sur le vélo, parce que la selle, apparemment, ça vous fait des trucs chelous. le fait que courir, tu perds ton utérus. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a un éternel recommencement. Il y a autant de gens qui étaient capables de dire que la femme a les droits, on l'a dit tout à l'heure, dans le ciel, fait de la montgolfière et rend pas ouf, tu vois.
Son mari la soutenait, donc c'est la preuve voilà.
Et en même temps, t'as des détracteurs qui disent des insanités complètement ouf. Et le fait que ça existe encore en 2025, les deux camps existent toujours, ça me choque, tu vois. Je me dis, mais en fait, quand est-ce qu'on va évoluer ?
Bah, la seule chose qui a évolué un petit peu, pas complètement, mais un petit peu, c'est que du coup, c'est moins... La médecine ayant évolué, on ne peut plus dire des choses telles que si elle va courir un marathon, elle va perdre son utérus. C'est des choses qu'on ne peut plus dire parce que
oui.
De façon médicale, on sait très bien que c'est pas plausible. Mais ça va, on va attaquer sur autre chose, en fait. Et c'est juste une parenthèse, j'ai vu sur les réseaux sociaux, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'il y a une femme, je suis désolée, je ne sais plus son nom, elle a couru un marathon d'un nombre incalculable de kilomètres, un gros marathon, je ne sais plus exactement, mais c'était quand même pas mal de kilomètres. Et en fait, à chaque point où elle devait prendre à boire ou quoi que ce soit, et tu continues à courir avec ça, en fait, elle s'arrêtait et elle allaitait sa petite fille de 6 mois. Et elle l'a fait plusieurs fois sur le trajet, elle a gagné la course.
Ah ouais.
Donc, si tu veux, ces propos-là, c'est juste... Vas-y.
Oui, il faut passer à autre chose, les gars.
Voilà.
Tu as une mamie à nous présenter ?
Oui, j'ai une mamie...
Vas-y.
Qui c'est donc que je vais te parler ? Je vais te parler d'elle parce que j'aime bien, ça parle d'une autre partie, pour le coup, du sport. Elle s'appelle Lise Hartel. Elle est cavalière, elle était cavalière en dressage, c'était une danoise.
D'accord.
Et du coup, c'est la première femme médaillée aux Jeux Olympiques de 1952, elle a eu l'argent. Donc c'est la première femme médaillée pour cette discipline, à savoir l'individuel. Et elle a été de nouveau médaillée en argent pour les Jeux Olympiques de 1956. Et du coup, c'est la première femme qui a participé à ce type de compétition, ça n'existait pas en fait. Elle a fait, entre autres, les championnats du Danemark, où elle a remporté 7 médailles d'or. C'est pas anodin.
Juste 7 médailles d'or.
Et surtout, je voulais parler d'elle parce que en termes de courage, et tu vois, ça reprend un peu les choses innommables qui ont été dites par des hommes, c'est que cette femme, elle était atteinte d'un handicap, la poliomyélite, qu'elle a attrapé durant sa deuxième grossesse. Et du coup, elle était paralysée au-dessus du genou. Donc en fait, c'est la pionnière du handisport pour le coup, mais malgré son handicap, et pour le coup, elle a attrapé ça, c'est pas de naissance ou ce genre de choses, c'est suite à... Et du coup, ça ne l'a pas empêchée de faire ce qu'elle aimait en fait.
Quel exemple, moi je suis choquée. Alors que moi, j'ai mal au doigt de pied, je ne vais pas courir. Hein.
C'est jamais des fois que tu le perds.
Ah bah je m'arrête moi. Moi je vais vous parler, on la connaît, et en fait c'est la période pour en parler toujours le printemps. Suzanne Lenglen, bien sûr, la française. Oui. Suzanne Lenglen qui n'est pas juste le nom du deuxième stade de Roland-Garros, c'est vraiment une dame.
On n'a pas inventé ce nom, ça existe vraiment.
Non, elle
existe
vraiment, Suzanne, pour de vrai. Donc c'est la première star mondiale du tennis féminin, vous allez voir, elle a révolutionné son sport. Année d'activité 1919-1926, elle domine la scène mondiale. Je tiens quand même à dire qu'elle a 6 Wimbledon, 2 médailles olympiques, surtout 81 titres internationaux en simple, sur une série de 181 victoires. Même Serena Williams, ça fait pas, tu vois. C'est assez fou.
Surtout à cette époque-là, avec le matériel, c'est pas la même chose. Hein. Et c'est pas le même sport, en fait.
Belle transition. Elle est connue pour avoir refusé les tenues strictes. Elle joue avec une robe fluide et sans corset. C'était révolutionnaire à l'époque.
Ah, tu m'étonnes, un corset pour jouer au tennis, ça devait être horrible.
C'était la tenue officielle, elle a refusé. Donc très sportive, Suzanne Lenglen parvient à acquérir un jeu alliant précision, puissance et régularité grâce à une pratique intensive de la gymnastique et de la danse. Elle a su améliorer sa condition physique et sa technique en jouant régulièrement des matchs d'entraînement contre ses partenaires masculins, de l'équipe de France, notamment René Lacoste. C'était un ami.
En même temps, pardon, je te coupe juste 2 secondes. Est-ce qu'elle avait la possibilité de pouvoir jouer face à d'autres femmes ? Ou en fait, c'est juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes et qu'elle devait jouer face à ces hommes ?
Non, ça, c'est l'entraînement.
Excuse-moi.
Faisait un truc qui ne se faisait pas à l'époque, c'est-à-dire qu'elle jouait en compète entre filles, donc ça, c'était OK. Mais quand elle s'entraînait contre des gars.
OK.
Alors que d'habitude, c'était en mode, vous êtes une fille, vous n'avez pas joué avec un homme. Mais elle s'entraînait avec les gars de l'équipe de France, les mousquetaires, René Lacoste, tu vois. Qui étaient d'ailleurs très amis avec elle, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle a dominé le statut mondial.
Oui, parce que du coup, elle s'entraînait avec une puissance autre.
C'est ça. Et c'est surtout qu'elle a révolutionné le sport parce qu'elle elle se distingue en devenant la première joueuse de tennis de l'histoire à porter des jupes courtes, plissées et montées au-dessus des genoux. Aujourd'hui, ça paraît impensable avec l'histoire de la jupe. Pour elle, c'est déjà très, très fou. Accompagnée d'un cardigan sans manches et d'un bandeau de tulle maintenant ses cheveux, elle découvre également ses bras, ses chevilles. Elle porte des tenues colorées à une époque où le blanc est de rigueur. Souvent, comme tu regardes le tennis, souvent elles sont en blanc, les filles. C'était le cas à cette époque. Donc elle venait en couleur, elle n'avait rien à faire. Et surtout, elle se présente sur le court en manteau de fourrure maquillée avec des bijoux. Il y a quoi ?
Représente !
Elle est là, Suzanne. Voilà.
Moi, je suis une femme et j'en suis fière, je vous le montre.
Elle a retourné le game, Suzanne.
Trop voilà. Bien.
Pas de Suzanne, pas de Serena, pas d'Amélie Mauresmo. Ouais, à toi.
Entre autres, pas de Steffi Graf.
Oui, voilà, Monica Seles.
Faut que je te parle de quelqu'un d'autre. Je vais te parler...
Et après, moi, j'en ai une dernière. Et après,
j'ai trouvé ça sympa. Elle s'appelle Lucienne Vélu.
Oh.
Elle est record woman de lancer de disque en 1924.
Ah oui, quand même.
Elle a été 33 fois championne de France.
C'est stat, elle me termine.
Surtout le lancer de disque.
Mais 33 fois championne de France.
Et elle a eu 7 records nationaux. Qu'ont sûrement, j'ai pas regardé, mais qu'ont sûrement peut-être été battus depuis. Mais
oui, sans
voilà.
Doute. Mais
elle était porte-drapeau des Jeux Olympiques de 1934. Et elle a eu 7 médailles d'argent au championnat de France, bah, pareil, hein, de lancer de disque. Elle était capitaine et ensuite parce que c'est pas tout, on s'est dit pourquoi se contenter à faire qu'un seul sport et ensuite elle a été capitaine de l'équipe de France de basket et donc elle a été dans la première équipe féminine lors des championnats du monde et ils ont battu les États-Unis
GG
en 1930 je crois si je dis pas de bêtises que le dernier chiffre il est un petit peu bref elle a fait partie de la première équipe féminine de basket et ils ont battu les États-Unis.
Ouais, multiples. Il y avait beaucoup ça à l'époque. Elles arrivaient à faire plein de choses différentes. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Marie Marvin. Tu vois, elle fait le tour de France à vélo, elle fait Paris à la nage, et puis après elle fait la montgolfière et tout. Il y avait vraiment un côté multi...
Ouais, je trouve ça dingue, surtout que du lancer de disque et du basket. Je pense que le ballon devait être hyper léger pour elle.
Alors, en fait, moi j'en ai deux. J'en ai un qui est très rapide, et ça, il me tue. C'est Lida. Eliza Peyton Pollock des États-Unis, qui est une mamie dans un monde de mamies. On est en 1904, nous sommes aux JO. Et pour, je cite, montrer que l'âge et le genre ne doivent pas être pris au sérieux et n'est pas une barrière au sport, elle va gagner une médaille d'or et 2 de bronze olympique au tir à l'arc à l'âge de 63 ans.
C'est génial.
63 ans en 1904, tu vois.
Mais
donc
c'est
on est
surtout,
déjà...
elle voulait le faire, elle l'a fait, c'est top.
C'est dinguerie. Mais je trouve ça complètement ouf.
Je peux finir juste avec une, c'est très court. C'est Gertrude Ederl. Elle est triple médaillée des Jeux Olympiques en 1924. Et c'est la première femme à avoir traversé la Manche à la nage en 14h39, qui bat le record d'un homme.
Non mais 14 heures. Ou à l'enfer, je suis aquaphobe.
Et en plus, elle a utilisé pour la première fois le crawl.
Oh.
Pour le faire, enfin, les gens nageaient le crawl, mais c'était quelque chose. On voyait nager le crawl, c'était genre, mais qu'est-ce qu'il fait en fait ? Et elle l'a fait.
Moi, j'en ai une que j'aime beaucoup, et ça sera la dernière du jour. Fanny Blankers-Cohen, Pays-Bas, athlétisme. Elle a gagné au JO de Londres 1948 en sprint. Et en haies, 100 mètres, 200 mètres, 80 mètres haies, relais 4x100. Elle bat ou égale 12 records du monde d'athlétisme. Elle remporte 58 titres nationaux au championnat des Pays-Bas de 36-55, 5 médailles d'or au championnat d'Europe. C'est un modèle de ouf. En 48, c'est important, elle a 30 ans, ce qui est déjà assez haut pour une athlète. Généralement, on est en fin de carrière. Elle peut participer aux Jeux Olympiques de Londres et se révèle à cette époque. Elle était déjà mère de 2 enfants. Et son surnom, c'est... la ménagère volante.
C'est pas très joli, la pauvre.
Écoute, c'est une légende. Alors, c'était tout à fait unique à l'époque, il faut le savoir. 30 ans, mère de 2 enfants. De nombreuses personnes n'approuvaient même pas les femmes athlètes. Alors, une femme qui est mère de famille, encore pire. Et elle va remporter 4 médailles d'or, le 100 mètres, le 200 mètres, le 80 mètres et le 4x100. Et en plus, le pire, c'est qu'elle était record woman du monde de saut en hauteur et saut en longueur. Mais quand elle pouvait pas s'inscrire à plus... elle a fait l'impasse sur ces deux, deux trucs-là. Sinon, elle aurait eu autant. Elle égale des grandes légendes en nombre de médailles olympiques gagnées pendant une Olympiade avec Florence Griffith Joyner, dont on parlera. Parce qu'elle a, c'est un truc de ouf. Elle bat aussi Carl Lewis, Jesse Owen. La ménagère volante.
La ménagère volante.
la goat. Elle est au-delà du truc, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. On va... Alors déjà, merci beaucoup Sandrine.
Je t'en prie.
D'avoir été là.
Avec plaisir.
Ça va, ça t'a plu ?
Ouais, c'était... c'est passé vite comme d'habitude.
Ça passe toujours vite.
Ouais,
hein.
Ouais.
Mais ça passe vite quand on s'amuse.
C'était cool.
Merci évidemment à la régie Diego Armando Maradona, bien sûr. Merci à LYFM. Alors, je tiens à dire que si vous voulez suivre le compte Instagram de l'émission, c'est championne. Pardon, @championunderscore, l'émission sur Instagram. Si vous voulez savoir, il y a bien la Fédération française de l'aérostation, si vous aimez la montgolfière, sur Facebook. La Fédération internationale sur Instagram, c'est la FFA Aerostation. Vous pouvez, si vous aimez l'histoire, parce qu'on en a parlé aujourd'hui, aller sur le compte de Nota Bene, qui est un influenceur, youtubeur, twitcher, bref, qui adore faire des petites pastilles de quelques minutes sur l'histoire. J'adore son contenu. Vous pouvez aussi aller voir la PETA. C'est pour les animaux.
Les animaux.
Et bien sûr, la page Facebook. Ça, alors, si tu mets fesses, F2SE, plus loin, goutte, G-O-U-T-E, c'est très étrange quand même. Donc, la page
ça
Facebook.
Ça devrait changer de nom.
Ah, voilà, voilà. Alors, la page Facebook du quiz de foot, bien sûr. Et non pas le Facebook quiz de foot. Tenu aussi par un ami, notre cher Damien, bien sûr. Il nous reste encore 2 minutes d'antenne. C'est à 57 qu'on envoie le générique. Et on peut 1 minute 30. Allez, en 1 minute 30. Ça va, ça t'a plu ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est des exemples, hein, finalement, ces dames-là.
Mais c'est dingue de voir que... Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai énormément galéré à trouver ces femmes-là, en fait.
Oui.
Sur Internet, ce n'était pas évident de trouver, d'avoir leur palmarès, d'avoir quelque chose. Elles n'ont pas spécialement une page Wikipédia.
Complètement.
Donc, c'était quand même assez compliqué à trouver. Alors que quand je faisais mes recherches sur Internet, je m'étais bien féminine, mais ça m'orientait vers les hommes. Mais je ne voulais pas, je ne voulais pas ces infos-là. Je voulais les infos par rapport à des femmes. Et j'ai mis du temps à les trouver et je trouve ça tellement dommage parce qu'elles ont un palmarès de fou en sachant qu'à cette époque le matériel n'était pas le même.
Ouais.
La façon comment la société appréhendait, oui, ce genre de choses, c'était pas évident. En plus, c'était entre deux guerres.
Ouais.
C'est vraiment une période qui était compliquée et je trouve ça dommage qu'on les mette pas plus en avant, que ce soit à la fois des Françaises, Cocorico ou d'autres nations. Mmh. C'est dommage parce qu'elles ont permis, du fait de leur féminisme ou de se battre pour les femmes, elles ont permis peut-être l'ouverture, en tout cas, tu vois, tu parlais de la tenniswoman tout à l'heure.
Tout à fait.
En fait, elle a permis à cette génération, ouais, qui sont arrivées par la suite de pouvoir faire des choses colorées, d'être en cool. Enfin bref, elles ont ouvert l'esprit, peut-être en prenant beaucoup de brimades. Heureusement, il n'y a pas les réseaux sociaux à cette époque-là, mais
clairement,
elles ont permis ça. Et je trouve ça dommage qu'on ne les mette pas plus en lumière parce que, franchement, elles ont des records de fou.
Ah, mais les mamies, là, il n'y a rien à dire. Moi, tout ce que je peux dire en quelques secondes, c'est, je suis complètement d'accord avec toi, elles sont méconnues alors qu'ils devraient être plus en avant. C'est elles qui ont ouvert, qui aujourd'hui, oui, telle ou telle chose vous paraît naturelle, normale en 2025, mais en fait, il y a des gens qui se sont battus avant. Elles font partie de notre patrimoine et je suis très content d'en avoir découvert. Et effectivement, il faut en mettre plus la lumière sur elles, ainsi que nos contemporains. Sur ces quelques mots, merci beaucoup Sandrine d'avoir été là.
De rien, je t'en prie.
Merci à Ligre. Et puis c'est le moment de la fin. Le mot de la fin ?
Fin.
Générique.
Vous écoutez à LYFM 93.1.